à la mécanique, hein, à l'inertie, il publie un discours sur les corps flottants, il va étudier la chute des corps, mais ces sujets-là, je ne vais pas en parler ce soir. Les choses semblent aller très bien, sauf que les thèses de Copernic auxquelles il adhère sont mises à l'index, c'est-à-dire que le livre de Copernic est interdit à la publication et à la vente. Galilée se soumet provisoirement à une interdiction de discuter de l'héliocentrisme, mais c'est plus fort que lui, il ne peut pas. Et en 1632, il publie un ouvrage, Le discours sur les deux grands systèmes du monde, qui est
l'apologie.
Oui, une description du système du monde. Il oppose Ptolémée, qui était géocentrique, c'est-à-dire qui plaçait la Terre au centre du monde. Il l'oppose à Copernic, qui place le Soleil au centre du monde. Et il a une grande faveur pour Copernic. Donc là, l'Inquisition se fâche, il ne peut pas échapper au procès, et l'on sait qu'il sera condamné à abjurer en 1632. Et il sera condamné à un exil en Italie, où il restera jusqu'à la fin de sa vie.
Tout n'est pas perdu, je crois que l'Église l'a réhabilité il y a peu moins d'une dizaine d'années, ouais, je crois.
Bien tardivement quand
bien
même.
Bien tardivement, mais bon, ils l'ont quand même réhabilité. En quoi l'Église avance avec son temps.
Voilà. Il meurt en 1642, et 1642 c'est aussi l'année de naissance de Newton.
Donc, comme s'il y avait une passation de...
Comme s'il y avait une passation de pouvoir.
Mais il est un peu jeune, Newton, pour la passation, quand même, faut reconnaître.
Il était tout bébé.
Bah, juste un mot pour l'Église, parce que j'ai cru lire quelque part que quand Copernic, justement, avait émis son modèle, hein, c'était plus un modèle qu'une thèse, d'héliocentrisme, ou mettant le Soleil au centre du système solaire, l'Église l'avait soutenu, dans un premier temps. Il faudrait que je vérifie. D'autres choses, c'est vrai que Galilée était professeur au moment où l'Inquisition lui a demandé de ne plus professer ses thèses comme des vérités, mais comme des hypothèses. Et je crois même qu'il était professeur, justement, dans un établissement tenu par l'Église. D'où l'explication un peu. C'est l'Inquisition, mais c'est une Inquisition relativement douce. On ne l'a pas torturé, quoi.
Non, bien sûr, il n'a pas été torturé. Hein. Par contre, ce que tu dis, c'est vrai. Tant qu'on présentait l'héliocentrisme comme une thèse, comme une supposition, ou comme une hypothèse, ça passait. Mais de dire que c'était la réalité physique... C'est là que ça passait pas. On pouvait très bien admettre que la Terre tournait autour du Soleil d'un point de vue mathématique pour calculer et décrire les phénomènes, tout en croyant fermement que la Terre est immobile au centre du monde.
Tout à fait, on pouvait présenter ça comme un modèle pratique de calcul. Il faut dire aussi qu'à partir du moment où la Terre n'est plus le centre du monde, ça pose un sacré problème puisqu'elle n'est plus unique, hein, si elle est comme toutes les autres planètes, et si elle n'est pas unique, l'homme n'est plus unique. Et voilà, à ce moment-là, l'homme étant la créature de Dieu, jusqu'où ça peut aller, c'est donc l'Église était en même temps très attentive à ce que la science pouvait professer à ce niveau-là.
Effectivement, le géocentrisme en place la Terre au centre du monde, l'humanité est au centre de la création, donc tout est centré autour de nous. Dès l'instant où on déplace la Terre de ce centre du monde, on n'est plus la partie la plus importante de la création.
Pour paraphraser André Breillat, qui nous dit, quand il présente le système solaire, il dit qu'on habite le troisième débris en partant de la gauche. C'est-à-dire que Mercure va, Vénus, et nous, c'est la Terre.
Maintenant, depuis Natal, c'est la cinquième planète. Hein.
Ah, oui,
c'est
ça. Hein. Ouais.
On n'est plus la troisième, il y a des débris.
Il y a encore d'autres débris, en fait. C'est le cinquième débris, maintenant, il faudrait dire.
Nous sommes le cinquième débris.
Alors effectivement, ce débris a posé beaucoup de problèmes aux astronomes à l'époque. Et ce que tu disais sur Copernic, Copernic a reçu un accueil favorable. Seulement entre-temps, il y a eu le protestantisme et l'opposition entre l'Église catholique et l'Église protestante a fait que l'Église catholique a crispé ses positions. Et quand on est dans une situation de conflit, on n'est jamais favorable aux idées nouvelles. Donc il y a eu une sorte de récession. Et, par contre, dans l'Église protestante, les hypothèses de Copernic n'étaient pas mieux admises.
Non, donc, c'était pas admis à l'époque, en sens large.
Voilà, il y a une certaine intolérance, parce que ça remet toujours en cause la position de l'homme dans l'univers. L'homme n'est plus le centre de la création, et ça dérange beaucoup. Alors, pour en revenir à Galilée, c'est mars 1610, la date charnière, parce qu'il construit des lunettes.
Et qu'il a quel âge, à peu près, cette époque-là ?
46 ans.
Donc, c'est à 46 ans qu'il... Donc, voilà.
Voilà, il a appris qu'en Hollande, on fabriquait des lunettes, des lunettes pas astronomiques, mais des lunettes
pour les bateaux aussi,
voilà, pour l'observation terrestre, pour les bateaux, etc. Peut-être que des gens ont eu l'idée de la tourner vers le ciel. Je crois qu'un Anglais, Thomas Harriot, l'a fait, Mais c'est Galilée qui l'a fait le premier et qui l'a publié.
Mais c'est un peu le problème. Hein. Voilà. C'est ça, qu'on n'a pas de preuves. Il n'y a personne qui était là pour prendre des photos à l'époque et puis les dater.
Il faut préciser que c'était une lunette à lentille concave.
Voilà, c'est ça.
C'est-à-dire une espèce de jumelle de théâtre. Hein. C'est pas du tout une lunette comme on a maintenant.
Le nord était en haut, comme dans nos longues vues, et non pas comme dans une lunette astronomique où c'est le sud qui est.
C'était vraiment une lunette de base, hein, comme dit Daniel, les jumelles de théâtre. Et en fait, pourquoi c'est devenu astronomique? Puisque c'est le premier à l'avoir pointé. Au moins, on est sûr que c'est le premier à l'avoir écrit, comme quoi il avait pointé la lunette
vers le ciel. Vous avez des opticiens en Hollande extraordinaires, parce que Leeuwenhoek, qui était hollandais, c'est lui qui a inventé une bille de verre pour faire un microscope, hein, c'était à cette époque-là.
Les Hollandais étaient les meilleurs du monde.
Et on a le nommé Spinoza, qui c'est le philosophe, hein, qui vivait de la taille des lentilles. Et nous avons notre Hollandais à notre congrès d'astronomie qui a suivi cette prestigieuse filiation, notre ami Bob Schreit, comme on dit
en hollandais.
Oui, parce que une fois que le mouvement est lancé, on ne l'arrête plus. Hein. Galilée fabrique des lunettes et après, pas tout le monde, mais beaucoup de gens vont fabriquer des lunettes. Et Descartes publiera un traité, la dioptrique, où il parle justement de lunettes et de microscopes. Donc l'optique était à la mode à l'époque, mais forcément, puisque avec l'optique, bon, les microscopes, on peut voir l'infiniment petit. Les télescopes, les lunettes, on peut voir l'infiniment grand. Donc c'était la révolution scientifique de l'époque. Hein. Les instruments déployaient les possibilités de la vue et on faisait des découvertes qu'on n'imaginait pas auparavant.
Donc là, on est en mars 1610. Voilà. Galilée a 46 ans, il n'a pas la télé. Donc la chose indispensable dans la vie de tous les jours, quand même, on se demande comment on arrive à vivre sans la télé, il se dit, bah, tiens, je vais regarder le ciel, qui est quand même beaucoup mieux que de regarder TF1.
On est 54 ans avant Cronenbourg.
Voilà.
Enfin, on n'a pas le droit de faire le pub, pardon.
C'est le personnage qu'on parle, hein, c'est pas là.
Oui, oui. C'est vrai qu'on a moins lieu de Strasbourg.
Voilà.
C'est vrai qu'on regarde la télé le soir. Il faut dire qu'en ce moment, le temps est tellement mauvais que vaut mieux. On peut pas trop regarder le ciel.
Donc, mars 1610, c'est parti.
Donc, il a fabriqué ses lunettes avec donc des tubes de plomb et des lentilles concaves. Alors, il annonce des grossissements de 60 à 1000 fois. Mais en fait, c'est des grossissements en surface. Il dit quand je grossis 1000 fois, c'est en surface. En fait, il grossit 8 et 30 fois.
Oui, bah oui.
Donc vous voyez qu'une paire de jumelles 30 fois, c'est une bonne longue vue. Hein, une lunette d'astronome amateur, une lunette de 60 mm, peut grossir 90 fois. Galilée n'a pas disposé d'instruments aussi perfectionnés. Donc l'amateur qui débute aujourd'hui avec une petite lunette de 60, il débute avec un instrument dont on n'aurait pas rêvé Galilée.
Tout à fait.
Donc il observe la Lune. Donc avec des grossissements de 20 fois, donc 400 fois en surface, c'est peut-être plus impressionnant de dire en surface. Donc dans ses dessins, le nord est en haut, hein, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc il remarque que la Lune n'a pas une surface polie. À l'époque, on croyait que la Lune était une sorte de boule de cristal, avec quelques petites densités à l'intérieur pour expliquer les mers que l'on voit. Mais on croyait que c'était une boule de cristal qui était un peu translucide. Quoi.
Pour les gens qui le croient encore aujourd'hui, ils viennent demain soir, hein, et puis ils vont voir que c'est pas vrai.
Donc il observe la Lune, il voit ce que l'on appelle le terminateur, c'est-à-dire la ligne de séparation entre la partie éclairée et puis la partie obscure. Il voit que ce terminateur est tout déchiqueté.
Donc c'est bien le terminateur, hein, parce que depuis
Terminator.
Voilà, c'est le film qui a été fait. Avant, on n'avait pas de problème à expliquer aux gens, mais maintenant, on est obligé de dire, de toute façon, c'est bien le terminateur et non pas le Terminator. Le
Terminator, c'est bien. Tu as parlé anglais ou latin, non? C'est ça.
Non, mais c'est vrai que si tu parles rapidement, t'as tendance à. Les gens, des fois, entendent, ils connaissent malheureusement plus le film que le Terminator de la Lune.
Moi, j'ai pas de problème, je suis d'ascendance suisse.
Voilà.
Le Terminator. Donc, c'est la ligne où se lève le soleil pour un habitant de la Lune ou alors où se couche le soleil. Et donc, on a un éclairage rasant, ce qui accentue les reliefs et permet donc à Galilée de voir que la Lune n'est pas une boule de cristal, mais en fait, a un relief comme la Terre. Il observe les mers, enfin ce que l'on appelle les mers, les taches sombres, qu'au début, il pense que ce sont des étendues liquides, ce que beaucoup d'astronomes croiront jusque...
C'est pour ça que ça s'appelait les mers, d'ailleurs.
Voilà, jusqu'au 19e siècle. Mais en fait, il réfléchira, il changera d'avis, et il pensera que ce sont des étendues désertes, des plaines. Il voit aussi des cratères. Et donc, dans ces dessins, on voit un cratère. Alors que on a du mal à l'identifier. Alors, plusieurs astronomes se sont penchés là-dessus. Alors, c'est soit Albatenius, soit Ptolémée, soit Alphonse. C'est un cratère qui est vers le milieu de la Lune. Et sur le dessin, c'est pas évident de savoir lequel que c'est. Mais enfin, bon, ce qui est intéressant, c'est qu'il est le premier à décrire ses formations caractéristiques. dont Kepler fera des villes fortifiées de sélénites.
Ah oui.
Des habitants de la Lune. Donc il observe aussi des montagnes, hein, des chaînes comme les Apennins. Donc les noms de la Lune seront donnés beaucoup plus tard. Hein, lui, il ne donne pas de nom, mais enfin il décrit les phénomènes qu'il voit sur la Lune.
Un jour, on m'a demandé comment est-ce qu'on sait que ça s'appelait comme ça. Comment on sait que tel cratère il s'appelle comme ça sur la Lune.
La carte, les premières cartes de la Lune, je crois que la nomenclature c'est Riccioli. C'est Grimaldi ou Riccioli, je ne sais plus lequel des deux.
Grimaldi, c'est le... Voilà. C'est le prince de Monaco, là, non ?
C'est pas la même famille.
C'est pas les mêmes.
Mais je sais que l'un avait placé le cratère Copernic au milieu de l'océan des tempêtes, parce qu'il ne croyait pas au système de Copernic. Il l'avait banni dans cette région inhospitalière. Alors, l'autre grande découverte avec la lunette astronomique, ce sont les satellites de Jupiter.
Donc, il a fini avec la Lune. On a vu qu'un peu qu'il a fait pas mal de petites choses. Donc, maintenant, il se tourne vers les planètes...
Donc dans son ouvrage, là, le messager céleste, le Sidereus Nuncius, il existe des traductions françaises avec les dessins, vous pouvez voir ces dessins de la Lune. Donc le 7 janvier 1610, il regarde Jupiter, il voit trois petites étoiles de part et d'autre de Jupiter. Bon, il pense que ce sont des étoiles. Il observe le lendemain, il voit que Jupiter s'est déplacé par rapport à ses étoiles, parce qu'il croit toujours à...
Que ce sont des étoiles.
Que ce sont des étoiles. Et en fait, il se rend compte que ce ne sont pas des étoiles, mais que ce sont des petites planètes qui tournent autour de Jupiter. Il en découvre trois, et il en découvre une quatrième ensuite. Alors, il va les nommer Médicéens, en l'honneur du prince de Médicis.
Qu'il finançait, je crois.
Oui, qu'il était son protecteur. Voilà. Donc, on donne toujours le nom de son protecteur.
C'est toujours bien vu.
Voilà. Un sponsor, comme on
son
dit.
Son sponsor, voilà, c'est ça, hein, tout à fait. Et ces satellites vont être un argument très puissant en faveur du système de Copernic. On reprochait à Copernic, la Terre, elle tournerait autour du Soleil, mais en même temps, la Lune, elle tourne autour de la Terre. Comment que ça se fait que la Lune tourne autour de la
c'était
Terre?
C'était la seule, en fait. Ouais,
voilà. Et donc là, il y a...
Comment la Terre peut-elle emmener sa Lune, voilà. Justement, oui.
Voilà. Et donc, là, Galilée répondait, Jupiter emmène quatre Lunes
il emmène bien
dans
les
sa
siennes,
ronde autour du Soleil. Voilà. Donc, c'est un argument très puissant en faveur des hypothèses de Copernic.
Ce qu'on appelle maintenant, d'ailleurs, les cas satellites, on les appelle les Galiléens, justement.
Voilà, donc c'est après qu'on les a appelés Galiléens. Et le mot satellite a été inventé par Kepler.
C'est donc... une mine d'un puits de savoir, Christian.
Donc il observe ses satellites...
Il a de bons livres.
Il observe ses satellites entre le 7 janvier et le 2 mars 1610. Après quoi, il va rédiger le bouquin, mais il va observer après, mais... les observations qu'il décrit sont dans ces dates. Alors, ce n'est pas dans le même ouvrage, mais après, il découvre les phases de Vénus.
Alors, comme les phases de la Lune.
Comme les phases de la Lune. Alors là, il donne ça comme un argument en faveur du système de Copernic, puisque pour lui, ça montre que Vénus tourne autour du Soleil. C'est vrai, sauf qu'il y avait un système, celui de Tycho Brahe, dans lequel la Terre était au centre du monde, le Soleil tournait autour de la Terre, et toutes les planètes tournaient autour du Soleil.
C'était un système un peu hybride, on peut dire.
Voilà, c'est un système hybride, mais dans ce système-là, Vénus peut avoir des phases, puisqu'elle tourne autour du Soleil, mais Vénus, quand même, tourne, en quelque sorte, autour de la Terre. Donc, ce n'est pas un argument décisif en faveur de l'héliocentrisme, mais c'est quand même un argument important. Il va reconstituer, donc dans le système du monde, dans le dialogue sur les deux grands systèmes du monde, il dit « je prends une feuille de papier et puis je vais reconstituer le système de Copernic ». Alors il place la Terre, il place le Soleil. Donc les planètes Vénus et Mercure, elles tournent forcément autour du Soleil, puisque si Vénus tournait autour de la Terre, on verrait... Elle n'aurait pas de phase. Donc Mars... présente pas de phase, donc elle tourne autour du Soleil, son orbite est plus grande, elle contient l'orbite de la Terre. Il reconstitue le système de Copernic, sauf que lui, il a des observations astronomiques, alors que Copernic ne disposait pas de la lunette astronomique. Copernic évoque à un moment donné les phases, la possibilité de phase pour Vénus, mais comme il n'avait que ses yeux pour les voir,
et qu'on les voit pas,
il ne pouvait pas en dire plus. Alors, tout cela montre Galilée comme quelqu'un de très moderne, mais c'est aussi un polémiste et il n'aura pas toujours raison. Alors, j'en viens aux tâches du soleil. Alors en 1611, il y a un père jésuite, Christophe Scheiner, il observe le soleil, alors pas directement avec lunettes astronomiques parce qu'il serait crevé les yeux,
brûlé les bête,
yeux, exactement, mais par projection, hein, ce que l'on recommande toujours aux astronomes amateurs de faire.
Oh, voilà.
J'en profite en passant, je voudrais pas qu'on dise après oui, mais...
Donc même à l'époque, il savait très bien qu'il fallait pas observer le soleil.
Donc il observe le soleil et qu'est-ce qu'il voit ? Des taches. Alors là, ça ne va pas.
Parce il étoie son objectif 3-4 fois, puis à la fin, il se dit qu'il doit y avoir un problème. Et
il en a quand même déduit que le soleil, bien qu'étant dans le ciel, n'était pas parfait.
Ah, oui, mais il a refusé au départ cette idée-là, parce que le soleil était quelque chose de parfait. Même chez Copernic, hein, le soleil est un astre parfait. Copernic n'aurait pas vraiment aimé l'idée qu'il y ait des taches sur le soleil. Mais le père Scheiner, il se résout, bah, l'observation, bah, elles sont là, ces taches, hein, donc on ne peut pas les nier. Donc il y a une imperfection dans le soleil. Mais lui, il pense que ce sont des planètes qui tournent autour du Soleil très proches, mais que ce sont des planètes. Et Galilée va montrer que ce ne sont pas des planètes, mais que ces taches appartiennent au Soleil.
Ah oui, c'est-à-dire que le père, il croyait que c'était des planètes qui faisaient de l'ombre, en fait, ou que c'était un petit point noir, que Galilée, lui, il essaie de démontrer qu'en fait, ils sont bien sur la surface du Soleil.
Et puis, elles ne sont pas très rondes, ces taches. Hein, mais néanmoins, elles tournent toutes ensemble d'un mouvement, contrairement aux satellites de Jupiter, justement, qui ont des balais, qui montrent un balai différentiel, enfin, entre chaque satellite a son mouvement propre, alors que là, les taches du Soleil sont toutes ensemble, comme si elles se donnaient la main, donc c'est probablement qu'elles sont sur le Soleil. C'est un peu ça, le raisonnement.
Oui, c'est ça, voilà. Donc, il en déduit une période de rotation du Soleil, et son argument, bah, c'est qu'une tache, quand elle est près du bord, elle est très mince en largeur, et elle conserve toujours sa hauteur quand elle se rapproche du centre. Par contre, près du centre, elle est plus large. C'est un effet de perspective, tout simplement. Sauf que le père Scheiner était, comment dire, il ne voulait pas qu'il y ait une imperfection sur le Soleil. Il préférait l'idée que ce soit des planètes. Tandis que Galilée, ben, lui, il admet d'emblée que c'est un phénomène physique sur le Soleil. Seulement, dans sa polémique, il n'est pas très aimable avec le père Scheiner. Comme c'est un jésuite et que les jésuites sont très puissants à Rome, Galilée va se faire des ennemis. Et ça pèsera lors de son procès. On ne lui pardonnera pas d'avoir ridiculisé le père Scheiner.
Ah, mais c'est vrai, quand on croit avoir raison, il y avait tendance à...
Qui est-ce qu'il appelait Simplicio dans ses écrits, Galilée ?
Alors, c'était un aristotélicien, c'est-à-dire...
Un disciple d'Aristote.
Voilà, la physique de l'époque, c'était celle d'Aristote. Mm-hmm. On en référait toujours à Aristote. D'ailleurs, le père Scheiner en avait parlé de ses tâches à son supérieur, et son supérieur, quelques jours plus tard, lui dit « Écoutez, j'ai relu tout mon Aristote, mais je n'ai rien trouvé sur les tâches solaires. » Donc, si vous découvrez quelque chose qui n'est pas dans Aristote, ça n'existait pas.
Voilà, tout c'est simplement. Pratique. Donc, il est rendu ses tâches, et puis il démontre qu'elles sont sur le soleil, c'est ça ?
Alors, voilà. Ce qui est remarquable, c'est que le père Scheiner, dans ses dessins, il a constaté que la rotation différentielle du soleil, c'est qu'il note, il a noté la période de toutes ses tâches, et celle de l'équateur tourne moins vite que celles qui sont un peu plus élevées en latitude.
Sur Terre, il n'y a pas de problème, puisque tous les points, vu que la Terre est solide, tous les points ont la même vitesse.
Et puis elle est petite en même temps.
Et en plus elle est petite, mais on a le même problème sur Jupiter, c'est les périodes de rotation des gaz, hein, ils ne sont pas identiques à l'équateur et donc au pôle, donc c'est le même principe pour le Soleil, c'est une boule de gaz en fusion, donc... les tâches, elles tournent plus vite.
C'est ce qui explique que dans l'œuf de la poule, enfin des oiseaux, il y a une partie torsadée, parce que le jaune, il tourne plus vite ou moins vite que le reste. Ah oui, c'est vrai.
Bon, tu nous feras une étude sur les poules la prochaine fois, Daniel. On revient à Galilée, parce qu'il ne devait pas de poule.
Donc, cette rotation différentielle, Galilée n'y croit pas. Il ridiculise encore une fois le père Scheiner, puisque le Soleil, c'est un globe solide. Une partie ne peut pas tourner plus vite qu'une autre. Donc, on le voit, Galilée n'est pas toujours aimable dans ses propos. C'est un bon scientifique, mais il est parfois aveuglé par certaines de ses idées. Alors, l'aveuglement le plus manifeste, c'est à propos des comètes. Alors, on observe des comètes à l'époque, on en a toujours observé, et l'idée à l'époque, qui est répandue par Tycho Brahe, c'est que les comètes sont des astres, c'est-à-dire qu'elles appartiennent, elles sont du même rang que les planètes, elles tournent autour du Soleil ou de la Terre, mais ce sont des astres. Et Galilée ne croit pas du tout à cette idée-là, pour lui ce sont des vapeurs, des exhalaisons de la Terre, qui en s'élevant diffusent la lumière du Soleil. Alors, il y a encore un jésuite là-dessus qui...
Il est pauvre.
Grassi, Orazio Grassi, qui publie un bouquin sur les comètes, comme quoi ce sont des astres, et Galilée, là-bas, il le ridiculise encore une fois, il se fait encore des ennemis. Et là, on voit bien que Galilée a tort, puisqu'on sait que les...
Ce sont bien des astres.
Alors, quel était l'argument
Galilée a tort, c'est pas Gladiator.
Si on est dans la période. Hein. Ouais, on fait que des films, là.
Galilée ne croit pas aux effets de parallaxe, hein, parce que Tycho Brahe, comme Grassi, il s'appuyait. Pourquoi il disait que les comètes étaient des astres? C'est parce qu'il y avait un effet de parallaxe qui permettait de mesurer la distance de ces comètes. Pour Galilée, ce sont des nuages, des exhalaisons, donc sur lesquels il n'est pas possible de faire des mesures de parallaxe.
D'accord.
Donc il ridiculise encore une fois ce jésuite, il se fera des ennemis. Il dit à un moment donné, si les comètes étaient des astres, alors elles auraient des orbites immenses et il faudrait agrandir le système solaire. Ce qui est un moment de clairvoyance, mais en fait, il refuse cette idée. On voit que Galilée, là, c'est un bon scientifique, mais il est aussi aveuglé par certains de ses préjugés.
Tout à fait.
Alors, je ne sais pas si j'ai encore beaucoup de temps.
Vas-y, finis ton dernier point.
Le dernier point, c'est l'univers sphérique. Alors, Galilée continue à croire à un univers sphérique, bien que sa lunette ait permis de démultiplier le nombre d'étoiles. Alors, il croit à un univers sphérique plus par précaution, d'abord parce qu'il ne veut pas parler d'infinité de l'univers, il y a déjà des problèmes avec l'Église, alors il ne veut pas trop en rajouter. Et ensuite, parce que l'infinité de l'univers, c'est quelque chose qui n'est pas très facile à prouver à l'époque. Alors, donc, il dit, admettons, comme moyenne, que les étoiles forment une couche concentrique au Soleil d'une certaine épaisseur. Et puis, voilà, quoi.
C'est surtout parce que si l'univers est infini, Dieu fait partie de l'univers. Si Dieu en fait partie, il ne peut pas l'avoir créé.
Non, mais tout à fait.
Il y a eu tout un problème métaphysique là-dedans. Et ensuite, il y a l'idée aussi que la sphère est une figure parfaite en volume. Un peu, Galilée est encore un ancien disciple des Grecs et des figures géométriques
et de
parfaites.
Et de Copernic. Il a lu Copernic et chez Copernic, l'univers est sphérique. Et Galilée admet quand même que les étoiles peuvent être d'autres soleils, mais il n'en dit pas plus, parce que alors là, c'est
pas trop
la lie, en fait. Hein. Déjà, il dit que le système solaire, que la Terre tourne autour du Soleil de manière physique. S'il parle de l'infinité, de l'univers, des autres planètes, etc.
Là, il commence à faire chaud, puisque Giordano Bruno n'a été brûlé que parce qu'il avait prétendu qu'il y avait d'autres terres autour d'autres étoiles et d'autres êtres humains.
C'était en 1601, et tout le monde s'en souvenait à l'époque.
Ça restait frais, chaud dans les esprits, comme on dit. Sinon, il avait été brûlé. Quel jeu de mots. Donc maintenant, nous allons marquer une petite pause musicale. Merci beaucoup, Christian, pour cet exposé très clair sur Galilée. Donc, on a bien vu qu'il avait raison sur pas mal de points, mais qu'il avait tort sur d'autres. Un peu comme tout le monde. C'est rarissime d'avoir des gens
comme nous aussi.
Comme nous aussi. Finalement. Nous, on a plus souvent raison, en fait. Hein.
Oui, tout à fait.
Bon, là, voilà. C'est bon, on n'a rien à rajouter. On lance la petite pause musicale.
Thank you. tête vidée, comme abandonnée. Le barman s'éclate, moi j'en ai ma claque, plein mon sac, je déraille ahuri dans l'allée. D'un éclat de musique blessé, au milieu des danseurs qui s'affairent, j'ai l'idée d'un parking solitaire, drôle de galaxie.
C'était une musique de circonstance pour l'astronomie, c'était Drôle de Galaxie par Daniel Balavoine. Vous êtes toujours sur Alternantes, 98.1 FM à Nantes, 91 à Saint-Nazaire. Vous êtes avec la Société d'Astronomie de Nantes pour l'émission Pulsane en direct. Et nous allons vous parler maintenant d'une chose assez complexe à dire et à comprendre. Donc c'est à Daniel qui va s'y coller. Ça va être le calcul infinitésimal. Alors c'est notre très cher président Daniel Warling qui s'y colle.
Merci mon cher Thierry, je dispose pour cela d'un temps infinitésimal puisque je n'ai que 5 minutes, je vais essayer de vous brosser en quelques mots l'histoire de cette fabuleuse méthode mathématique dont la naissance remonte d'ailleurs aux Grecs, on pourrait dire, le calcul infinitésimal. Alors d'abord une petite définition pour ceux qui sont un tout petit peu versés dans les mathématiques et après j'expliquerai pour tout le monde. Pour les mathématiciens, tout le monde, les écoliers, les lycéens, tout le monde connaît le calcul différentiel et intégral. En fait, calcul infinitésimal, cela désigne l'ensemble des notations et des méthodes fondamentales du calcul différentiel et intégral. Hein, c'est les dérivés, les intégrales et ces méthodes mathématiques, ce qui permet d'aborder justement les problèmes fondamentaux de la physique, ce que Newton appelait la philosophie naturelle. Plus prosaïquement, je dirais qu'en fait le calcul infinitésimal, c'est un ensemble de méthodes et de formalismes mathématiques qui sont développés pour pouvoir finalement, lorsqu'on dispose par exemple du taux de variation d'une grandeur, quand on étudie un phénomène physique, généralement on le voit sur un court laps de temps, hein, on a accès finalement à une fraction seulement du phénomène. Et justement, ce sont les méthodes mathématiques qui ont été développées pour, à partir de cette fraction, pour pouvoir remonter au phénomène dans sa globalité, dans son intégralité, comme on pourrait dire. Hein. Alors, si pour l'instant, admettez un petit peu cela, et puis je pense qu'on essaiera d'y voir plus clair tout à l'heure. Alors les prémices de ce calcul, d'où ça vient cette histoire-là? Ben tout simplement, on va remonter aux Grecs. Hein, qu'est-ce qui se passe à chaque fois qu'on a affaire à des figures, à des lignes continues, ou au problème du mouvement, le difficile problème du mouvement, on est très embêté. Par exemple, quand on a des lignes continues comme un cercle, prenez par exemple la circonférence du cercle. Regardez ceux qui ont quelques livres chez eux, tout l'effort d'imagination qu'il a fallu déployer pour arriver à mesurer la circonférence d'un cercle. Alors les Grecs s'y sont pris d'abord avec des figures qu'ils ont inscrites, des carrés, puis des octogones, puis des dodécagones, etc., etc. De plus en plus fins, avec des... En fait, on a essayé...
De plus en plus des légères.
Tout à fait, des segments de plus en plus petits, hein, pour essayer de se rapprocher le plus possible de la forme circulaire, sans jamais l'atteindre, évidemment, ce n'est qu'une approximation. Donc, c'est en rapport aussi avec la philosophie des Grecs, qui était développée par Démocrite, de considérer finalement que toute chose est formée d'entités microscopiques, très petites, pas infiniment, très petites et indivisibles. Notamment, la matière est formée d'atomes. Hein. C'est-à-dire, on arrive à fractionner, à diviser encore, et à un moment donné, on tombe sur quelque chose qui est indivisible. C'est ce qu'on appelle atome. Hein. Vous connaissez tous tome premier, tome deuxième. Tome, ça veut dire diviser, donc atome qu'on peut plus diviser. Donc, cette théorie atomique va s'étendre aux lignes, aux surfaces, aux volumes, qui sont considérés par les Grecs comme étant formés d'éléments indivisibles, mais en nombre fini. Très grand, mais fini. Alors, tout le problème maintenant, ça va être de partir de cette géométrisation de l'univers. Hein. On a essayé de comprendre les choses avec la géométrie. Vous savez que les Grecs étaient de grands géomètres. Alors, on s'aperçoit très vite que cette géométrie a des limites. Tout le monde connaît le paradoxe de Zénon, par exemple, hein, le problème d'Achille et de la tortue. Hein, mettons, alors on donne une avance à la tortue qui s'en va, hein, qui marche très lentement, et on lui donne 1 kilomètre d'avance, mettons. Et après, voilà Achille qui se met à courir, hein, et qui va essayer de rattraper la tortue. Sachant que Achille, il va 10 ou 20 fois plus vite que la tortue, hein, pour arriver à l'endroit où la tortue se trouve au moment où Achille s'en va. Eh bien, lorsqu'il arrive à l'endroit où la tortue se trouvait, la tortue, pendant ce temps-là, elle a déjà parcouru une petite distance, aussi petite soit-elle. La tortue ne se trouve pas là où Achille se trouve. Maintenant, Achille, il s'en va d'ici, il va essayer de trouver l'endroit où se trouve maintenant la tortue. Et quand il va y arriver, la tortue aura encore parcouru un petit espace. Et ainsi de suite, à l'infini, ce qui fait dire à Zénon, de l'école des stoïciens, eh bien que finalement, c'est absolument pas possible que Achille rattrape la tortue, mais comme tout le monde sait qu'il la rattrape, c'est donc un paradoxe. Ça veut dire qu'on a un problème de physique qu'on ne peut pas résoudre avec les méthodes de la géométrie de l'époque. Ceci va inciter évidemment les physiciens, les astronomes à trouver des méthodes cette fois-ci pour dépasser la géométrie et des méthodes de mathématisation de la géométrie, d'algébrisation de la géométrie, c'est-à-dire des méthodes de calcul qui vont pouvoir transcender cette géométrie pour arriver à calculer. Et c'est là qu'on arrive dans les années 1600, je fais un grand saut.
On se rapproche de Galilée quand on en a parlé tout à l'heure.
Et on va en parler d'ailleurs. Dans les années 1604-1606, vous avez Luca Valerio, qui est encore un Italien, qui va finalement traiter ces problèmes de quadrature des Grecs avec un petit peu... Les Grecs faisaient des figures inscrites et circonscrites qui étaient irrégulières, qui étaient des figures géométriques parfaites, comme toujours, hein. Et Valerio va simplement dire, si je veux m'approcher du cercle, une fois que j'ai un hexagone qui est dans le cercle, j'ai pas besoin que je construise des figures très compliquées à 32 côtés, à 64 côtés. J'ai qu'à remplir l'espace qui est compris entre le cercle et la droite de l'hexagone par des petits rectangles, tous pareils, les plus petits possibles. Et par cette méthode-là, il arrive à trouver des calculs d'approximation plus intuitifs, moins formels, que ceux d'Archimède.
Donc là, pour ceux qui sont encore à l'école ou au lycée, quand on parle des petits rectangles, tout le monde commence à visualiser déjà les intégrales.
Voilà, tout à fait, ça préfigure. Alors, il introduit donc ces fameuses figures en escalier. Alors, on voit aussi Kepler qui dans son Astronomia Nova, il parle d'une décomposition du cercle en triangle. Alors en 1615, je le cite parce que c'est une petite anecdote, c'est très drôle. Dans Nova Stereometrica Doliorum Vinariorum. Vinariorum, c'est trop. Hein. En fait, Dolio, c'est la racine grecque des... des tonneaux. En fait, il avait observé les tonneliers viennois, comment ils faisaient pour construire des tonneaux. Il y avait des méthodes empiriques, il a essayé de les mathématiser. C'est très drôle de voir. On voit souvent en science ce rapprochement des scientifiques théoriciens de la pratique. Hein. Nous autres astronomes amateurs, nous savons ce que ça veut dire. Alors, on a donc dans toute cette époque avec Galilée qui va arriver là aussi. Galilée qui va développer une géométrie de l'indivisible. Il va inciter un de ses disciples, qui s'appelle Cavalieri, à poursuivre dans cette méthode dès 1621. Et il va donc développer ce calcul des infiniment petits, dont Pascal s'occupera également dans les années 1650-1660. Et Pascal va commencer à utiliser un langage qui va nous amener aux intégrales aussi. Il parle de la somme des lignes, la somme des plans. Il commence à utiliser un langage des indivisibles, mais il reste encore très proche de la conception d'Archimède, c'est-à-dire un nombre fini d'éléments indivisibles. Mmh. Pour l'instant, on n'est pas encore dans l'infinitésimal. C'est là qu'arrive Newton, le grand Newton. Alors là, il se passe un phénomène extraordinaire. C'est-à-dire que pour l'instant, on avait des méthodes mathématiques qui essayaient de rester, de coller à la géométrie ou de coller aux mathématiques. Et tout ça pour expliquer de la physique. Hein. Je vous signale que tout le problème, c'est d'expliquer le mouvement qui est un continu. Alors, je ne développerai pas tout ce que Galilée a développé. On peut lire des choses passionnantes. On s'aperçoit que Galilée était extrêmement en avance sur son temps. Justement, Galilée va reparler du mouvement. Par exemple, quand il traite de sa chute des corps. Pourquoi est-ce qu'il traite de la chute des corps? Parce qu'il voulait étudier un mouvement naturel. Hein, pour arriver aux lois de la nature. Et là, ce qui est merveilleux, c'est qu'il a tout de suite compris que ce mouvement était continu. Et alors, il va dire une chose que Newton reprendra. Il va dire, et finalement, les espaces parcourus sont en proportion des intervalles de temps. Et en fait, c'est l'écoulement du temps qui est responsable de l'extension des espaces parcourus. Et il fait du temps une espèce d'absolu physique que l'on va retrouver maintenant chez Newton. Alors, Newton va faire une démarche extraordinairement inverse. Il va réintroduire la physique dans les mathématiques. C'est-à-dire qu'il va... Je donne l'exemple tout de suite, vous allez comprendre. Hein. Il va dire, par exemple, que les lignes sont décrites et engendrées par le mouvement continu de points. Les surfaces sont engendrées par le mouvement continu de lignes, les solides par le mouvement continu des surfaces. Donc il commence à intellectualiser, à mathématiser le fait que des objets ou des transformations continues sont engendrées par le mouvement de quelque chose de plus petit, de quelque chose d'élémentaire, que si on le connaît, on va pouvoir remonter au mouvement global. Donc le point, par exemple, qui est un point purement virtuel, eh bien c'est le mouvement de ce point. C'est plus la juxtaposition de points en nombre très grand mais fini, c'est le mouvement continu avec des positions, avec une infinité de positions entre deux positions qu'on considère. Et alors, il dit une chose extraordinaire aussi, les temps sont engendrés par un flux continu. Et c'est par rapport au temps qu'on va mesurer, et je vous lis encore deux ou trois choses, considérant que les grandeurs qui croissent dans des temps égaux sont plus grandes ou plus petites, selon qu'elles croissent avec une vitesse plus grande ou plus petite. La vitesse se définit ainsi comme l'accroissement d'une grandeur physique par unité de temps. Et le temps apparaît comme un absolu physique. Et il dit d'ailleurs, il emploie ce terme, Newton dit... Il parle d'un temps absolu, vrai et mathématique. Il parle d'un temps mathématique comme étant quelque chose qui existe en dehors de tout phénomène, ainsi que d'espace absolu d'ailleurs. On est dans la physique de Newton, on n'ira pas aujourd'hui à la relativité où le temps et l'espace deviendront relatifs. Mais il faut savoir qu'il a déjà fallu accomplir ce premier temps. Alors, on est tout à fait dans la physique du 19e, du 20e siècle, hein, fin du 19e. Et bon, vous avez le concurrent de Newton qui s'appelait Leibniz, mais lui, il a fait que mathématiser, il a trouvé une formulation plus vraie. Et alors, je vais terminer par cette polémique autour du calcul infinitésimal, puisque finalement, mathématiquement, il se travaille avec une histoire de notion de limite, c'est-à-dire que on a des notions virtuelles en calcul infinitésimal. On dit par exemple, si telle grandeur devenait infiniment petite, on aurait ceci. Mais on n'a pas d'expression exacte, ce qui a fait dire au logicien que le calcul infinitésimal, finalement, était basé sur l'intuition, était métaphysique, parce que l'infini n'existe pas, etc., etc. Mais compte tenu de la puissance de ces méthodes de calcul, on les a laissées se développer quand même. Et alors, vous avez en 1697, donc on arrive au début du 18e siècle pratiquement, vous avez Fontenelle qui va s'y mettre, qui était président de l'Académie des sciences quand même, et qui va développer tout un argumentaire pour démontrer ce qu'il appelle les raisons de l'infini, c'est-à-dire que l'existence de l'infini mathématique. Et il dit bien, attention, il ne s'agit pas d'un infini métaphysique et virtuel, il s'agit simplement de l'infini qu'on considère mathématiquement, c'est un infini géométrique, celui-là, il existe, car je peux traiter des problèmes de géométrie avec. Et il dit, et c'est là-dessus que je vais terminer, il dit une phrase extraordinaire, le calcul est en géométrie ce que l'expérience est en physique. Alors là, on a la validation, finalement, du calcul, quel qu'il soit, du calcul infinitésimal, puisque la géométrie n'a pas d'autre moyen de se calculer que ces méthodes-là. Voilà.
Merci Daniel, c'était un exposé très clair. Maintenant, nous allons parler du club astronomie de la Presqu'île. Alors, donc, maintenant, nous allons aborder, pour ceux qui sont à Saint-Nazaire et pour les Nantais, il faut savoir que la SAN n'est pas le seul club d'astronomie au monde. Il y en a d'autres, il y en a donc un autre au moins, qui est intéressant.
Elle est au centre du monde, il y a des choses qui tournent autour.
Il y a des choses qui tournent autour.
Il faut des lunettes pour les voir.
Donc, il y a nos amis de Saint-Nazaire, donc Stéphane Danet, tu es quoi, président,
hein? Président, oui.
Président. Et avec notre ami, que j'ai oublié le nom. Vincent, voilà, tu peux le dire à l'antenne hein, quand j'ai dit trop. Vincent, qui vont vous présenter un peu les activités de ce club qui est à Saint-Nazaire, donc la banlieue proche de Nantes.
Qui est récent, mais qui est un club ami, qui a eu la courtoisie de nous dire, voilà, nous sommes en train de naître, regardez-nous, on va grossir. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs, les voici.
Et qui est à l'entrée de la Loire aussi.
En plus.
Ah, oui, vous avez intérêt à être plus gros, parce que la Loire est plus large.
Hein. Ouais. Il faut être gros. Alors, tu veux nous présenter un peu l'histoire du club hein?
Oui, alors tout d'abord, on vous remercie de nous avoir accueillis. Là.
Bon, c'est normal.
Donc, on va vous parler un petit peu de la création, comment est né en fait le club au niveau de la Presqu'île. Donc, on a démarré, c'est suite à l'éclipse du 11 août 1999, qu'on a été voir dans la région de l'Oise, plus précisément à Noyon.
Et sur le site de la Société Astronomique de France.
Voilà, mais nous, voilà. On était légèrement plus au sud. Hein. On a animé un camping en direct pendant l'éclipse. Et donc, on a eu pas mal de monde. Hein. Donc, c'était monté à l'improviste. Hein. Parce qu'on cherchait un camping. Et en fait, on a fini par animer. Quoi.
Très bien. À toi, Vincent. Il paraît, apparemment.
Moi, ça a été mon premier plaisir en astronomie. Cette éclipse, c'était vraiment la première chose que j'ai vue. Et puis le fait de partager du relationnel avec le camping qu'on animait, c'était vraiment exceptionnel. On a dû faire 2-3 soirées.
Bah, vous avez commencé très fort en fait, hein, d'aller en balade au camping et puis de tout de suite devenir les grands gourous de l'éclipse.
Donc allez-y.
Donc, on va vous parler un petit peu de nos activités. Hein. Donc, on a des séances de cours hein, qui se déroulent à peu près une fois tous les 15 jours. C'est-à-dire qu'on fonctionne une fois un vendredi. 15 jours après, on fonctionne sur un samedi.
Bah, c'est bien 15 jours.
Voilà.
Donc, quoi qu'elle ait te reprendre.
15 jours et 14 jours. Hein, si
vous... c'est tous les 15 jours.
Tous les 15 jours.
Alors, c'est 15 et 14.
Quoi. Voilà.
Non, c'est 15 et 13.
Et 13, ouais. Et 13, ouais, plutôt. Ouais. Donc on a opté pour ce système parce que bon, il y a la plupart des adhérents, donc il y en a qui étaient plus penchés pour le vendredi et d'autres plus penchés pour le samedi. Donc on a fait la poire en deux et donc tout le monde est content. C'est pas plus mal.
Donc vous réunissez tous les vendredis et tous les samedis en fait.
Non, une fois tous les 15 jours.
Oui, tous les 15 jours, mais une fois vendredi, une fois samedi. Donc en fait, deux fois un vendredi dans le mois et un samedi dans le mois, si j'ai bien compris.
Ça, Thierry nous fait partager les méandres de sa compréhension progressive de l'infiniment petit à l'infiniment
infinitésimal. Et donc en fait, qu'est-ce que vous faites exactement dans des réunions?
Alors, notre priorité, bon, c'est l'observation, mais bon, quand les conditions ne le permettent pas, comme actuellement. Donc on se penche plutôt sur des sujets que les adhérents traitent. Mmh. C'est soit les animateurs du club ou c'est des adhérents qui veulent vraiment traiter un sujet.
Vous donc faites des exposés?
Pas public pour l'instant.
Oui, des exposés
devant les adhérents. Pour initier, ou former ou spécialiser. Enfin.
Autrement, donc depuis le début de l'année, donc on a créé un atelier hein, qui se déroule un samedi par mois. Donc là, bon, c'est plutôt tout ce qui est système mécanique, électronique, et donc gestion par ordinateur pour les pilotages d'instruments.
D'un télescope, ouais.
Autrement, donc, je vais laisser la parole à Vincent, qui va nous parler des soirées d'observation.
Alors, nos soirées d'observation se déroulent tout au long de l'année, évidemment.
Le soir.
Quand il fait beau, et le soir.
Il fait beau. Nous en avons une de programmée d'ailleurs mercredi, là, au foyer des jeunes travailleurs de Saint-Nazaire.
On verra suivant les conditions météo.
Donc c'est pas compliqué, prenez une voiture. Mardi, vous allez dans le planétarium pour aller avec la SAN observer la Lune. Et mercredi, vous prenez la voiture, c'est à 3/4 d'heure de Nantes, Saint-Nazaire. Et puis vous allez. Et inversement pour ceux qui sont à Saint-Nazaire.
Alors vous plongez dans la Loire de la butte Saint-Anne.
Voilà,
et vous nagez jusqu'à Saint-Nazaire. Vous serez peut-être arrivé à kayak.
Et même s'il fait pas beau à Nantes, il peut toujours faire beau à Saint-Nazaire.
Et inversement, il y a un microclimat.
Le temps change très vite, effectivement. Donc, pendant ces soirées d'observation, nous initialisons surtout les personnes amateurs, donc, sur les planètes. Bon, actuellement, on voit toujours Jupiter, Saturne, Vénus, sur le matin, maintenant, de bonne heure.
Ça, c'est vrai qu'il y a un peu plus
surtout dur. Mars aussi, hein, qui arrive à grands pas.
Mars va arriver.
Qui va être un petit peu basse cette année, mais bon, ça sera mieux en 2005, si je me trompe pas.
Prochaine opposition ou quoi?
Voilà. Qui sera plus favorable, elle sera beaucoup plus haute, elle sera autour de 43 degrés au-dessus de l'horizon. Alors sinon, donc, on a créé l'année dernière, on a mis à titre d'essai, on a créé une série de soirées qui s'appelle les Nuits de l'été, qui se déroule
l'été.
Voilà.
Oh là là, comment je comprends bien.
Et plus particulièrement le samedi. L'année dernière, on faisait tous les samedis, et bon, cette année, on a décidé de faire au moins un samedi sur tous les 15 jours. Quoi. Mm-hmm. Donc là, cette année, on a décidé de faire ça sur la terrasse panoramique du sous-marin Espadon, donc qui est en plein centre de Saint-Nazaire, vue sur la mer.
Pourvu qu'il reste à flotter, le sous-marin.
Qu'il ne fasse pas comme le Kursk.
Donc autrement... On a créé là depuis le début de l'année donc un site internet hein, vu que c'est la mode pour tout le monde, donc on a voulu
c'est très utile.
Ouais, c'est pas qu'une mode, ouais, c'est quand même une utilité importante. Comme les auditeurs qui ont internet, ils vont prendre un crayon et une feuille, et puis on va leur donner l'adresse dans quelques secondes, le temps qu'ils trouvent leur crayon et leur feuille.
Alors donc le site est sous le serveur de AstroSurf, hein, qui est très connu au niveau des amateurs. Alors je vais vous dire l'adresse, alors www.astrosurf.com/astroestuaire. Alors astroestuaire, c'est attaché.
Voilà. AstroEstuaire, c'est tout bête.
Et vous accédez au site avec les dates des séances. Et puis, on a mis aussi toutes les émissions.
Depuis le SAM, puisque quand on les écoute.
Ah, ça, c'est bien. Ils sont sympathiques. On va les réinviter. Tiens.
Et on a créé une rubrique il n'y a pas très longtemps qui s'appelle donc à la traque des messiers. Donc, tous les objets messiers sont répertoriés. Comment les pointer à partir d'un chercheur à 630 ?
Les objets Messier, hein, faut rappeler aux non-initiés qu'il s'agit tout simplement du catalogue de Messier qui catalogue les objets célestes, planètes, galaxies et parce autres.
Messier était un découvreur de comètes et en fait, il croyait découvrir des comètes et en fait, oh non, c'est encore une nébuleuse ou une galaxie, même à l'époque, c'était pas encore bien simplifié comme ça. On savait pas à l'époque. Donc en fait, il a eu marre, il a fait un catalogue de tous les objets qui l'énervaient, en fait, ce qui paraît paradoxal. C'est presque ça.
Non, il a catalogué c'est les trucs qu'il voyait tout le temps, voilà. Il ne cherchait pas.
Voilà, comme ça, il était sûr que quand il tombait là-dessus, regarde son catalogue, voilà, ah non, ça c'est déjà vu, c'est pas une comète. Voilà. Donc en fait, il a fait un catalogue, ils ont ce qu'on appelle les catalogues de Messier.
C'est un anti-catalogue.
En voilà, c'est un anti-catalogue et maintenant utilisé pour les astronomes en tant que...
C'est Charles Messier.
Qui est très pratique.
C'est
très pratique.
Français, ouais. Ouais.
Autrement, donc, on a une rubrique hein, d'images qui ont été créées par des adhérents hein, qui travaillent surtout avec les webcams. Mm-hmm.
Et les images d'objets célestes prises
voilà,
par les
adhérents. Oui. Surtout bon, la Lune hein, puis les planètes.
Hein. Bah, les webcams, oui, c'est il faut savoir qu'à la webcam, oui, c'est il est plus facile d'avoir les planètes que les... Ou des amas, on a les amas quand même.
Oui, parce que c'est pas très sensible, ou plutôt c'est pas une définition extraordinaire, mais on peut voir...
C'est un manque de sensibilité hein, sur, oui. Sur les caméras.
Les webcams, c'est les trucs qu'on trouve dans les supermarchés, les ouais, caméras surveillance.
Pour parler. Non, les petites caméras pour les ordinateurs.
Ah voilà. Maintenant, oui. Il y a nous, on avait fait, avec quelqu'un, là, un adhérent, on avait fait une caméra pour observer la Lune.
Et on a fait aussi une micro-caméra de télésurveillance en noir et blanc. Et donc, on leur a mis à disposition une cassette vidéo. Donc, il y a 2h40 d'images. Donc, survol lunaire avec différents grossissements et puis survol de Jupiter et de Saturne.
Alors, votre prochaine séance, c'est quand exactement alors ?
Alors, la prochaine...
Bon, faut qu'il garde sa feuille, alors j'explique pas au niveau du micro, il est parti loin.
Ah oui, c'est difficile.
C'est quand tu veux.
Alors, la prochaine séance, c'est le 7 avril, hein, c'est le samedi 7 avril. Donc ça se déroule.
C'est samedi là.
Voilà, c'est samedi là. Donc on a comme sujet donc, les éclipses hein, qui vont être traitées par un adhérent et la constellation du Lion. Parce qu'on traite aussi les constellations au moins une fois par mois, de façon à accoutumer les adhérents pour l'observation par eux-mêmes.
Est-ce que vous avez d'autres
Autrement, on a créé, on est en cours de finition de créer un CD interactif hein, pour les scolaires. Donc, c'est quelque chose de très ludique hein, pour les enfants. Très simpliste.
Il n'y a pas que les enfants qui aiment jouer. Hein.
D'abord.
Moi, j'aime le ludique pour adultes, moi.
Et autrement, donc, on a un très gros projet qu'on espère qu'il va avoir jour. C'est le projet observatoire. Hein. On souhaite un observatoire sur la région de Saint-Nazaire.
Il faut savoir que nous, on a réfléchi pour faire un observatoire à Nantes, donc dans la région nantaise. Donc en fait, il y a des adhérents qui sont partis s'éparpiller dans la banlieue nantaise pour aller regarder les sites. Et en fait, malheureusement, il fallait s'éloigner à plus de 50 km pour...
Oui, dans un rayon de 35 km, on a trouvé un triangle d'or où il n'y avait pas de pollution lumineuse. Et malheureusement, dans l'étape d'à côté, les lois européennes, qui se substituent maintenant aux lois de Newton, hein, n'importe quoi, eh ben, on va mettre des lampadaires pour éclairer les vaches. Je crois que c'est contre la vache folle.
Je sais pas, ouais. Donc en fait, c'est vrai que nous, on a abandonné le projet puisque c'était trop éloigné de Nantes.
Oui, c'est pas possible.
Donc on ira observer dans leur observatoire.
L'avantage, c'est que bon, c'est vraiment à proximité, hein, c'est aux environs de 4 km hein, du centre de Saint-Nazaire. C'est bien dégagé plein sud et c'est sur un site mégalithique qui date de plus de 12 000 ans avant Jésus-Christ qui s'appelle le tumulus de Tizignac.
Et là, il n'y a pas de risque parce que s'ils l'ont construit là, les anciens, c'est qu'ils savaient ce qu'ils faisaient.
Ça sera pas inondé.
Donc actuellement, on est en train de faire une étude sur les fameuses portes du tumulus. Hein, parce qu'il y a ces deux chambres mortuaires et apparemment, elles sont axées sur des équinoxes. Donc il va falloir qu'on calcule tout ça, qu'on prenne des mesures. Sinon, on a un projet un petit peu fastidieux hein, qui s'appelle une BD astronomique. Mm-hmm. On ne trouve pas actuellement de BD astronomique dans les commerces. Donc, c'est une idée qui a été lancée et bon, on espère que ça va prendre le jour, quoi.
Toutes les infos sont sur le site internet. Hein.
Pour la BD, non.
Non, mais ça va si vous
avez des infos
au fur et à mesure.
Donc, autrement, on va vous parler, donc, pour finir, de la soirée du 12 mai qu'on va animer.
Qui est consacrée à Mars, le retour de Mars, qui va être visible à partir de mi-avril, je pense.
Ouais, autour de minuit.
Mars visible en avril.
Ouais, voilà. C'est ça qui est.
Même en mars, mais bon.
Non, on a choisi.
Non, c'est trop tard.
On a choisi un petit peu cette date du 12 mai pour préparer, malgré les conditions météo, on ne sait jamais si on a toujours du mauvais temps. Donc, on pourrait remédier pour la date de l'opposition qui se déroulera le 30 juin donc, de cette année. Donc, Mars sera au plus près de la Terre, mais très basse, quoi. Donc on sera sur le site du Tumulus, hein, donc on est bien dégagé vers le sud. Hein, sur,
Il y a même des photos du Tumulus sur le site
voilà.
Internet. Donc on va rappeler le site internet pour conclure. Donc c'est www.astrosurf.com/astroester, tout attaché à Astroestuaire. Non, ça vient, j'arrivais même à m'en sortir à Eplay. Je suis bon ce soir. Merci à tous pour cette partie-là. Nous allons maintenant avoir une petite plage musicale. Écoutez bien la plage, on vous expliquera pourquoi on l'a choisie. Allô la technique ? Voilà. Alors Daniel, l'argenture des miroirs, c'est quoi donc quoi c'est ?
Voilà, un jour j'avais vendu enfin, un fascicule que j'avais écrit sur l'argenture des miroirs. Et puis j'étais à ma chorale. Et puis les gens m'ont dit, tiens, tu t'occupes d'ésotérisme. Alors j'avais d'abord pas compris, puis j'ai compris que pour les gens, miroir, ils pensaient au miroir magique, l'argenture des miroirs, alors c'est très drôle. Donc je vous dis tout de suite, il s'agit des miroirs de télescopes. Alors on vous dira tout à l'heure pourquoi les télescopes ont des miroirs, parce qu'on vient de parler avec Galilée de lentilles. Alors qu'est-ce que ça vient faire, les miroirs? Alors en fait, de quoi je vais vous parler? Bah, tout simplement, bien sûr, de l'argenture des miroirs de télescope, l'argenture artisanale que nous avons relancée à Nantes. Et il s'agit tout simplement de l'application du procédé industriel d'argenture des miroirs, hein, puisque quand les supermarchés ou n'importe qui fait de grandes glaces énormes, hein, c'est tout simplement du verre sur lequel on a pulvérisé de l'argent par une réaction chimique que je m'en vais vous raconter.
Simplement rappeler que là, la différence, c'est que l'argent est pulvérisé derrière le verre avec une couche de protection.
On va dire tout ça.
Et c'est pour ça que vous n'êtes pas beau, d'ailleurs.
Non, puis c'est... rappelons tout de suite qu'il y a deux types d'instruments astronomiques, hein. Il y a les lunettes et les télescopes. Mm-hmm. Hein. Les lunettes sont des espèces de longues vues, donc ils sont munis d'une lentille convexe maintenant, après Galilée. C'est ce que les Anglais d'ailleurs appellent aussi des télescopes, puisque télescope c'est pour voir au loin. Alors là ce sont des télescopes réfracteurs, puisque la lumière est réfractée dans la lentille, à l'entrée de la lunette. Ceci s'oppose aux télescopes que les Anglais appellent les télescopes réflecteurs, qui comportent donc un miroir, qui est souvent un miroir sphérique ou parabolique. C'est ce que nous appelons en France tout simplement un télescope. Alors ce miroir, qu'est-ce qu'il fait? Il joue le rôle d'une lentille. En fait, il renvoie une image au foyer de la parabole, et cette image, après, on la grossit par une loupe. C'est le principe même de la lunette, tout simplement. Là, au lieu que ce soit une lentille, c'est un miroir. Alors, ce miroir, et donc pour qu'il réfléchisse, il est recouvert d'une couche métallique. Alors aujourd'hui, la plupart des miroirs de télescopes sont recouverts d'une couche d'aluminium sous vide, qui est déposée sous vide, un peu comme les phares de voiture, c'est ça d'ailleurs, c'est des réflecteurs paraboliques ou à peu près, hein. D'ailleurs, il serait très mauvais en astronomie, parce que nous sommes quand même plus parfaits, mais déposés sous vide, etc., etc. Alors ce procédé était pour l'astronome amateur extrêmement coûteux, hein, dans les années 70, moi je me souviens, quand j'avais commencé mon télescope dans les années 80, il fallait compter entre 500 et 1000 francs pour une petite galette d'une assiette de 20 cm pour la faire alluminer. Alors on en a eu marre, et puis en fait on s'est informé tout simplement, autrefois les astronomes amateurs, ils argentaient leur miroir, une fois que le verre était taillé, poli, hein, on fait ça soi-même d'ailleurs,
tout à fait,
hein. Eh ben, on dépose de l'argent, on fait des bains et on fait une réduction de l'argent sur le verre. Donc je vous raconterai ça. Et bon, ben ça c'est quand même, d'une part c'est très coûteux parce qu'on gaspille beaucoup de produits, c'est très imparfait. Ensuite, je ne vous dis pas les recettes, les erreurs qu'il y a dans les bouquins, enfin les recettes fantaisistes.
Ça, c'est un peu compliqué pour faire des bains, c'est vrai que
voilà.
C'est...
Alors il faut savoir que l'argenture était pratiquée à Nantes, à l'atelier de Monsieur Lassor, qui est notre président d'honneur, de 1940 à 1965. Donc je lui ai demandé, il m'a raconté tout ça, moi j'ai dit non, c'est pas possible, quand les grandes surfaces font des miroirs, elles procèdent pas comme ça, donc informons-nous. Alors on a trouvé une miroiterie, maintenant je peux la citer parce qu'elle ne le fait plus, c'était Blouin à l'époque, et je leur ai demandé comment ils faisaient, c'est tout simple, ils pulvérisent tout simplement deux solutions et la réaction chimique se fait sur le verre. Donc avant d'arriver à la réaction chimique, un petit rappel, le télescope est né, en fait c'est pas vraiment Newton qui l'a inventé, c'est un nommé Zucchi et Mersenne, un autre qui en a eu l'idée, le nommé Grégory. Les miroirs de Grégory, pour les astronomes amateurs. Grégory en donna la description dans Optica Promota en 1663. Et Newton, en fait, s'est inspiré de ça et construisit son premier télescope de 10 cm, tout simplement, de diamètre, un tout petit, en 1671. Mais à l'époque, les miroirs étaient tout simplement des miroirs en métal poli. Ce qui fait que pour le grand télescope de 2 mètres, le Lord Ross, qui se trouve en Irlande, qui a été retapé en 1997, eh bien, c'est tout simplement un grand miroir de 2 mètres en bronze. Alors, je sais pas si vous voyez, dès que le bronze s'altère, il faut le frotter, il faut le refaire, le raviver, mais quand on le ravive, en même temps, on l'use. Donc, on détruit la forme fragile parabolique, donc il faut le reparaboliser. Donc, sacré chantier.
Il y a un problème de poids aussi.
Et d'où l'idée? Alors, voilà. Non, pas vraiment, parce que le verre, vous allez voir, c'est plus lourd. Maintenant. Alors, les astronomes ont eu l'idée d'utiliser le verre, puisque le verre est indéformable, à la chaleur, ou semi-indéformable. Inaltérable, donc c'est un support idéal, seulement il faut lui mettre une couche de métal. Alors comment mettre du métal sur du verre? Alors, il y en a qui ont essayé de faire un amalgame d'argent, qui est un métal très réfléchissant, en frottant de l'argent sur le verre. Ça n'a pas donné, c'est peu adhérent, en fait on a très vite abandonné, et on a utilisé l'argenture par voie chimique, qui a été inventée par Drayton en 1835. En 1851, Liebig, le fameux dépotage, c'est un chimiste, l'améliora. En 1956, Steinheil fut le premier à fabriquer un miroir en verre argenté de 10 cm. Et en 1857, le fameux français Foucault, Léon Foucault, polyargenta un miroir de 33 cm pour l'observatoire de Paris. Et William Lassell était un Anglais, comme son nom l'indique, a mis un télescope de 1 mètre sur l'île de Man, en verre argenté par voie chimique. Puis après, la méthode fut perfectionnée par Martin Lumière, etc. Et peu à peu, les miroirs métalliques furent abandonnés pour l'astronomie professionnelle. Il n'y a que les amateurs qui continuaient jusqu'en 1935 à préférer les lunettes. Ils ont quand même un peu de retard. Alors, quel est le principe? C'est ce qu'on appelle la réaction dite du miroir d'argent. Alors, c'est quoi? Alors, pour les chimistes ou les non-chimistes, d'abord, je vais le dire, c'est tout simplement une réaction entre le nitrate d'argent, c'est AgNO3, et quelque chose qui va réduire et qui va transformer ce composé en argent métallique. Et ça, on utilise pour ça un sucre réducteur, le glucose. C'est Liebig qui a eu l'idée. Avant, on utilisait d'autres réducteurs. Il y a le formol aussi qui est réducteur. C'est comme ça d'ailleurs qu'on peut détecter le glucose dans les urines. C'est plus joli que la liqueur de Fehling. Vous prenez un tube à essai, puis clac, quand vous voyez dedans, c'est que vous avez du sucre dans le pipi. Bon.
Alors, c'était la note poétique de Daniel. Voilà.
Dans un premier temps, d'ailleurs, ce fameux nitrate d'argent est transformé en oxyde d'argent, Ag2O, par l'action de la soude, NaOH, ou de la potasse, KOH. Ensuite, cet oxyde, c'est lui qui est réduit par le glucose. Le glucose, il a une fonction aldéhyde qui est réductrice et qui va manger l'oxygène de l'Ag2O pour le transformer en Ag, en métal, argent, qui va se déposer sur le verre. Alors, dans le détail, on ajoute une légère quantité d'ammoniac, etc. Alors, tout le problème, c'est la pureté des produits, ce qui, dans les manuels... je vais en parler, justement, des fameux procédés pour l'astronome amateur qu'on lit dans les livres, Godillon, Madorni, enfin, tous ces livres, qui se copient les uns sur les autres. Alors, moi, j'ai détecté des trucs très drôles, où là, on sait très bien qui a pompé, entre guillemets, sur qui, et en pompant, pour pas montrer qu'il pompait, il a multiplié les proportions, mais c'est gouré, alors bon, c'est très drôle. Alors, il y a une imprécision dans les recettes, on vous parle jamais de la qualité des produits, or, la moindre impureté en chimie, surtout dans une série de réactions assez compliquées, c'est la cata, la variabilité des recettes, les erreurs, le problème aussi de l'accrochage de la couche d'argent, faut préparer son verre, Alors que dans le procédé industriel, mais manuel, alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a tout simplement deux composantes. On a d'une part la solution d'AgNO3, donc de nitrate d'argent ammoniacal d'un côté, avec la potasse, etc., qu'on fait agir dessus avant. Et de l'autre côté, on a la solution de glucose. Et alors, on fait venir ça par deux buses qui vont gicler en même temps. Et paf, la réaction va se faire. Et paf,
directement
sur le verre. Et alors, cette pulvérisation...
C'est un pistolet.
C'est assez... Voilà, mais il y a un coup de main. L'argenteur professionnel qui a un coup de main, qui prépare ses sauces dans le plus grand secret. Même le patron ne connaissait pas la composition exacte de la sauce que préparait l'argenteur. Ça, c'est leur petit, l'ouvrier qui veut garder son petit procédé. Il ajoute un peu de formol, patati patata. Et alors, il a aussi, il y a des secrets de fabrication, l'ordre dans lequel on met les substances. Et par exemple, on n'argente jamais par temps d'orage. Pourquoi? Parce que par temps d'orage, vous avez des éclairs qui forment des nitrates. Donc, de l'acide nitrique qui vient manger la couche d'argent qui se dépose et donc elle est fragile. Mm-hmm. Donc, on évite. Alors, il y a des tas de trucs comme ça. Il faut bien dégraisser le miroir, etc. etc. Donc en fait, le résultat, qu'est-ce que c'est? Vous avez une couche d'argent. Alors ce qui m'a paru extraordinaire, j'ai calculé, compte tenu que l'argenteur met 1 à 2 grammes d'argent sur par mètre carré.
C'est pour ça que l'argenteur ça coûte pas très cher, parce qu'un ou deux grammes d'argent.
Ça coûte pas cher, ça coûte entre.
C'est la manœuvre qui coûte cher, c'est pas l'argent. Les gens pourraient dire, je mets de l'argent sur mon miroir.
Voilà, puis c'est la perte, vous avez un petit miroir, parce qu'eux ils argentent de grandes surfaces. Donc si vous avez un petit machin, ils sont obligés de perdre pas mal de trucs. Alors, la couche d'argent, c'est très drôle, ça va de à peu près 0,01 micron. C'est-à-dire un dixième de l'épaisseur d'une bactérie. C'est-à-dire qu'au test de Foucault, qu'on utilise, nous, les astronomes amateurs, pour voir s'il y a des défauts sur le miroir, une bactérie, ça fait une bosse. Je dirais même que ça fait une montagne. Donc, quand on a testé quand même les miroirs qui sortaient de l'argenteur, on n'a vu aucune bosse, en fait, c'était parfait, et alors les miroirs sont parfaits. Et il faut quand même rappeler que l'argent, contrairement à ce que disent certains ânes, l'argent, ça réfléchit 93%, l'albédo est de 93%, alors qu'il n'a que de 83% pour l'aluminium. Mm-hmm. Seul avantage de l'aluminium, ça réfléchit mieux aux courtes longueurs d'onde. Mais pour la CCD, les caméras, donc justement à capteur, ceux-là sont plus sensibles aux longueurs d'onde. Donc il vaut mieux argenter un miroir. Alors, bon, il y a quand même un problème de fragilité de l'argent par rapport à l'aluminium, ce qui fait qu'on a avantage à aluminer encore parce qu'il y a une couche d'alumine protectrice qui se forme.
Il faut savoir que l'aluminium, quand il s'oxyde, c'est de l'alumine qui se forme et en fait, qui est transparent, c'est dur, donc ça protège voilà.
Alors que l'argent, non. Alors ce qu'on peut faire, c'est tout simplement protéger son miroir d'argent avec une couche de verre, comme le font d'ailleurs certains processeurs de miroirs aluminés. Mm-hmm. Enfin, il y aurait beaucoup de choses à dire. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que on peut très bien argenter son miroir de télescope. C'est très drôle parce qu'on peut avoir un miroir neuf quand on a un miroitier à côté, tous les 8 jours si on veut. Bon, alors, ce qui nous a paru intéressant, c'est de remettre cette technique à l'honneur et puis voir qu'elle fonctionne très bien. Et puis après, on l'a fait savoir, on a écrit là-dessus. Donc voilà, c'était notre petit point de contestation sanesque dans le monde de la chimie industrielle.
T'as raison, il faut juste rappeler que ce que t'as dit, les miroirs industriels qu'on voit dans les grandes surfaces ou même pour vous dans votre salle d'eau, dans la salle de bain, simplement, t'as une épaisseur de verre, une couche d'argent derrière, une couche protectrice. Donc en fait, la surface
ce qu'on appelle le teint.
Voilà, et derrière le verre. Alors que sur le télescope, la surface est sur le verre. C'est pour ça que vous êtes moins joli quand vous regardez que la réalité dans une glace, parce qu'en fait, votre image qui est altérée, parce qu'elle passe deux fois à travers le verre.
Mais il y a des images, il vaut mieux qu'elle passe deux fois.
Oui,
il vaut mieux qu'elle soit altérée. Hein.
Voilà, c'est pour ça que vous pouvez vous dire que le matin, si vous avez une tête un peu bizarre, vous dites c'est la fausse du miroir. Donc si vous voulez, prenez un miroir.
C'est la folle de Chaillot qui disait les miroirs sont faux.
Oui, c'est vrai.
Sauf les miroirs de télescope.
Merci Daniel pour cet exposé. Nous allons aborder la conclusion. Donc. Cette émission, on a parlé beaucoup de choses. On a parlé de Galilée, du calcul infinitésimal, du club de Saint-Nazaire, ce qui s'appelle le club astronomique de la Presqu'île, et on va finir par Daniel qui nous a parlé de l'argenture des miroirs. La prochaine émission pulsante, c'est le 16 avril à 21h10, comme tous les lundis des semaines paires, donc toutes les deux semaines. On vous rappelle les petites informations importantes. Il y a une observation au planétarium dans le square Moisan demain. Il y a une observation après-demain à Saint-Nazaire. C'est où exactement?
Foyer de jeunes travailleurs.
Voilà, foyer de jeunes travailleurs. Donc mardi observation, mercredi observation. La SAN est présente à la foire internationale de Nantes.
Vendredi, samedi, dimanche,
voilà.
Qui vient.
Ça doit être le 6, je crois.
Ça commence le 6, 7, 8.
Et la formation, entre guillemets, encore plus importante, quand même tout est important,
rappellera,
c'est que André Braïc revient faire une conférence à Nantes
le mercredi 6 juin.
6 juin. Au aussi, la prochaine conférence au grand public, on en reparlera dans la prochaine émission.
C'est le 27 avril.
C'est le 27 avril. François Swager qui va nous parler du calendrier. Toutes les explications, pourquoi le calendrier c'est si compliqué, pourquoi il y a des jours à 28 jours, à d'autres 31, pourquoi il y a 12 mois, etc. Donc toutes les explications, on les aura. Merci à tous pour votre fidélité. Merci à Claudie et Maël qui nous ont assuré la technique, qui n'ont pas fait trop de couacs, donc ils sont contents. Et ils se décontractent. Il ne reste plus qu'une manipulation à faire. On va vous laisser en compagnie de Straight Talk à la Sainte-Sandrine. L'astronomie s'est développée dans la marine.
Ça me fait penser à des proches. Ça fait rien. If you can't walk the walk, if you can't walk the walk, if you can't walk.